Merci. Donc, je vais un peu rebondir sur ce que vient de dire Olivier de Schutter. Mais bon, la dioxine dans le poulet, les hormones dans le lait, les antibiotiques dans la viande, les pesticides sur les fruits et légumes, les algues vertes sur le littoral breton, l'abaissement des nappes phréatiques, les nitrates dans les eaux, la surmortalité des abeilles, la faim et la malnutrition dans le tiers-monde, la participation de l'agriculture à l'effet de serre. Et on pourrait poursuivre la litanie. Il est clair, hein, là, on va répondre à une demande sociétale. L'idée de défendre d'autres formes d'agriculture, alors il y a une chose au moins que je partage avec le ministre, je vous le dis tout de suite, c'est qu'il y a urgence de produire autrement. Et quand on dit produire autrement, c'est toute notre agriculture qui va devoir opérer un virage à 90 degrés. Il ne s'agit pas de défendre une agriculture biologique pour des bourgeois bohèmes et une agriculture production de masse pour pourvu de pesticides, d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires et même de cheval dans le bœuf désormais, pour les couches modestes. Non, il va falloir absolument faire opérer à notre agriculture un virage à 90 degrés en réponse à une demande sociétale. Je crois que là-dessus, il y avait un peu un avis. Je sentais la salle assez d'accord avec cette idée-là ce matin. Et c'est comme ça qu'on va interroger les pouvoirs publics. Alors, en quoi l'agroécologie peut-être-t-elle la réponse? Et d'abord, au risque de redonner moi aussi ma définition d'agroécologie, en quoi elle répond vraiment à cette préoccupation? Produisons autrement pour s'interdire toutes les externalités négatives dont on vient de parler. Hein. Le lait, pas cher, nous coûte très cher. On paye des impôts pour retirer les algues vertes, on retire des impôts pour épurer les eaux, et les pesticides, c'est le coût, c'est peut-être même en espérance de vie. La crainte que l'on a avec les pesticides et l'exposition aux pesticides, c'est quand même que les générations plus jeunes que les miennes, exposées très jeunes aux pesticides, voient leur espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans Parkinson, sans Alzheimer et sclérose en plaques, 10 ans avant ceux de ma génération. Donc, on va arrêter, parce que ça, c'est des coûts tels, je ne sais pas comment les jeunes ont pris ça en compte ce matin, hein, les pauvres, mais il nous faut arrêter ce cirque et prévoir une transition écologique qui me paraît une révolution technique dans ses orientations, mais qui ne peut pas être un grand soir. C'est-à-dire on va se donner 30-40 ans pour vraiment opérer cette transition. Mais alors, allons-y et allons-y radicalement dans ces orientations. Alors l'agroécologie pour moi, c'est, je vous le dis tout de suite, c'est ce que, si on parle de discipline scientifique, agroécologie, logique, ça ressemble à une discipline scientifique, c'est ce que l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être. L'agronomie, elle a été trop normative, elle a été améliorée un rendement, c'est toujours accroître. On va vous dire, vous les agriculteurs, ce qu'il convient de faire, le contraire d'implicatif, hein, c'est-à-dire vous allez obéir. Ça, c'est terminé. Terminé. À partir de maintenant, on reconnaît que l'objet de travail des agriculteurs, c'est pas une plante, c'est pas un troupeau, c'est pas un sol, c'est un écosystème, c'est le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau, le cycle des éléments minéraux, le cycle des abeilles, le cycle des carabes, le cycle des coccinelles. Ce sont toutes ces interactions entre les êtres vivants. Et ça, chaque fois qu'un agriculteur pratique une technique, il modifie l'ensemble de l'agroécosystème, c'est-à-dire l'écosystème aménagé par les agriculteurs. Et à partir de maintenant, je vous propose qu'on prenne ça très au sérieux quand on définit des politiques publiques. On va aider les agriculteurs, travaillant pour leur intérêt privé, pour améliorer le sort de leur famille et de leurs revenus, pour faire en sorte que quand ils travaillent pour faire ça, libres dans leurs bottes, c'est-à-dire que ce ne sera pas une planification centralisée, on ne va pas revenir à « on va vous imposer ceci, les assolements, les rotations », non, non. Mais on va vous créer les conditions qui faisant que travaillant pour votre intérêt privé, droit dans votre botte, fier d'un bon produit, fier des services environnementaux que vous rendez à la nation, eh bien vous travaillez en conformité avec l'intérêt général. Voilà la seule ambition que j'ai pour la politique agricole commune et la politique agricole nationale. C'est quand même pas mal comme ambition. Vous allez voir, ça suppose des revirements assez complets. Rapidement quand même, pour vous rassurer sur le plan scientifique, il m'est souvent reproché quand certains ont vu le film de Marie-Monique Robin. Et quelque part, oui, avec la main, il faudra que j'évite de me... Secret des champs, où vous avez là aussi une revue de AgriSud qui recense toute une série à travers le monde d'expériences d'agroécologie réussies. En général, les gens me posent la question, oui, c'est très bien tous ces petits cas là, puis Fabien est arrivé, il nous a parlé d'agroforesterie, c'est vachement sympa, etc. Mais tout ça, c'est des gadgets de gens bien intentionnés, mais est-ce qu'on peut en tirer une leçon générale? Alors je vous dis tout de suite, toutes ces expériences-là peuvent être parfaitement confortés scientifiquement par justement ce que ce devrait être l'agroécologie dans le sens scientifique du terme. On va faire un usage intensif des ressources naturelles renouvelables, par exemple l'énergie solaire, puisque les calories alimentaires, puisque l'énergie qu'on dépense les uns et les autres en venant ainsi s'installer. Il faut quand même savoir que ça nous vient de l'énergie solaire. C'est la plante qui, par la photosynthèse, transforme l'énergie solaire en énergie alimentaire. Et bien, on va promouvoir désormais, dans chacun des écosystèmes, parce que ce qui donne aussi l'impression de l'agroécologie, c'est qu'il n'y a pas une norme. Et pour cause, l'agroécologie, ça va être de prendre en compte l'objet de travail des agriculteurs, c'est l'agroécosystème. Et d'un endroit à l'autre, ça change. Donc les formes d'agroécologie ne peuvent être que très différentes. D'où cette accumulation d'expériences réussies, mais néanmoins portées par un premier objectif. Pas un rayon du soleil ne tombe à terre, tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles, et sur des feuilles qui transpirent, parce que c'est quand la feuille de la plante transpire que la plante est capable de prendre le carbone, du gaz carbonique, de fabriquer des hydrates de carbone, le sucre, l'amidon et les lipides, notre ration énergétique. Il faut que la plante transpire, il faut que l'eau s'infiltre, et qu'elle n'aille pas ruisseler, éroder les sols et rejoindre la rivière, il faut qu'elle s'infiltre, il faut que le sol soit aéré. On pensait labour, désormais on va penser vers de terre, ça nous a été dit, technique culturelle simplifiée, zéro labour, couverture végétale, il y a des bestioles qui vont faire ça pour rendre le sol poreux. L'eau va s'infiltrer, il faut que l'eau reste accessible aux racines et retenue par le complexe argilo-humique. Ben, entretenez l'humus de vos sols. L'humus, ça a été dit tout à l'heure ce matin, c'est un savant mélange carbone-azote. Il va falloir mélanger les graminées avec des légumineuses, il va falloir révéler les animaux sur la paille. Quand ils vont uriner, ils seront dehors mieux que sur du béton. Ensuite, plutôt que fabriquer du lisier, et de fertiliser les algues vertes sur le littoral breton, l'azote va être piégé par le fumier, les microbes vont manger le carbone de la paille, vont s'abreuver de l'azote de l'urine, ils vont fabriquer du fumier, et le fumier, quand vous mettez dans un sol, ça refabrique de l'humus, et quand il y aura de l'humus, les sols auront de l'eau à disponibilité, ça allongera la durée de la photosynthèse. Et Fabien arrivera avec ses arbres, etc., et il a raison, totalement, avec des brise-vents, vous allongez la durée de la photosynthèse, et le paradoxe, c'est que parfois que c'est avec moins de soleil que vous faites le meilleur usage du soleil. Oui, c'est très compliqué l'agroécologie, et ça dépend des situations concrètes dans lesquelles on est. Vous voulez fabriquer des protéines, il faut de l'azote. Rassurez-vous, l'azote est dans l'air. Je ne sais pas si vous savez, il y a déjà trois bonnes nouvelles. L'énergie solaire est renouvelable, le gaz carbonique est pléthorique, on peut prendre le carbone et relâcher l'oxygène, et l'azote de l'air est à 79%, on n'arrivera pas à 75% avant des siècles. Donc, utilisez les légumineuses, fixez l'azote de l'air, vous fabriquez des protéines, vous fertiliserez le sol pour les cultures qui viennent en rotation, vous n'aurez plus besoin de mettre, comme vous le mettrez, de l'urine ou du fumier pour fertiliser les plantes, vous n'aurez plus besoin d'urée, à défaut d'urine, vous mettrez de l'urée ou de la... Enfin, à défaut, justement, quand vous aurez du fumier, vous ne mettrez plus d'urée parce que vous aurez de l'urine, vous n'aurez plus besoin de madamonitrate, vous n'aurez plus besoin d'apporter du gaz naturel russe et norvégien. Écoutez, si c'est pas rationnel, hein. L'agriculture inspirée de l'agroécologie, c'est hautement rationnel, je voulais juste vous rassurer, au-delà de la multitude d'exemples, scientifiquement, on pourra vous le démontrer, l'agriculture qui présente moins d'externalités négatives et qui même parfois d'un point de vue strictement monétaire sera la plus rentable pour un certain nombre d'agriculteurs, c'est celle qui fait l'usage le plus intensif des ressources naturelles et pléthoriques et qui fait l'usage minimum de l'énergie fossile et des agro et zéro agrotoxique. Alors pour reprendre un peu le débat de ce matin, je vais vous dire tout de suite, voilà, mon idéal c'est l'agroécologie. Et dans toutes les formes d'agriculture dont on en parlait, c'est quand même celle qui a le label AB et l'agriculture biologique qui, pour l'instant, répond le mieux à ce que je suis en train de vous dire. Et la force de l'agriculture AB, c'est qu'elle a un logo, un label, et le caractère artisanal, parce qu'on va voir que l'agriculture inspirée de l'agroécologie est en fait une agriculture artisanale qui s'oppose à l'agriculture industrielle. C'est-à-dire qu'elle exige plus de travail. Cette agriculture inspirée de l'agroécologie, figurez-vous, elle va être intensive en emploi. Et c'est si grave dans un pays où il y a 10% de chômeurs que d'installer des jeunes agriculteurs et que d'enrayer l'exode rural. Donc notre agriculture, elle sera aussi intensive en emploi. Mais comme elle est intensive en emploi, il y va de soi que le caractère agricole en fait un bon produit qui mérite d'être mieux rémunéré. Et du coup, la question en termes de politique publique, comment va-t-on pouvoir rendre accessibles aux couches modestes les produits issus d'une agriculture plus artisanale, devient un vrai problème de politique publique. Et ça va être ça, l'objet, si vous me permettez, de la discussion. Eh bien, j'aurais, alors évidemment, je vais parler de politique publique France, mais aussi de la politique agricole commune. Et avant de vous dire comment j'aimerais bien qu'on mène la bataille d'amendement à quelques mois de la révision de la politique agricole commune, j'aimerais vous dire ce que je crois que devrait être une politique agricole commune idéale. L'idéal, c'est que vous y avez aujourd'hui 9 milliards, il y en avait 9 milliards 5, je crois que M. Hollande a réussi à défendre 9 milliards d'euros tous les ans pour nos agriculteurs. Voilà. Il y a donc déjà 9 milliards d'euros, c'est à peu près le plan de reconstruction d'Haïti après le tremblement de terre, sur 10 ans pour 8 millions d'habitants. Ces 9 milliards d'euros vont, de façon extrêmement inégale, à peu près sur nos 500 000 unités de production agricole, vont à 300 000 d'entre elles, et très inégalement réparties. Ce que je vous proposerai, c'est que ces subventions retrouvent un caractère incitatif, cessent d'être découplées de toute forme de production, qui ont perdu tout caractère incitatif à produire ceci ou cela, qu'elles retrouvent très vite un caractère incitatif, et incitatif à faire quoi ? Des formes d'agriculture inspirées de l'agroécologie. Je vois deux axes dans ma politique agricole idéale. Premièrement, on va promouvoir l'agriculture biologique, qui elle a déjà le label, qui elle a déjà la certification, qui elle mérite d'être mieux rémunérée grâce à cette certification. Je vous propose de rendre accessible couche modeste via au moins déjà la restauration collective. 2014-2020, très progressivement, une part croissante de ces subventions vont aller aux agriculteurs qui s'engagent à fournir la restauration collective en produits issus de l'agriculture biologique, de saisonnalité, de terroir et de proximité. L'idée, elle est bien de créer un débouché, pour reprendre l'expression d'Olivier de Schutter tout à l'heure, avec un prix rémunérateur, stable et incitatif à faire du bio à la proximité des grands centres où il y a de la restauration collective. L'école primaire, c'est l'éducation au goût, parce que l'agroécologie sera aussi une révolution culturelle et du goût. Collège, lycée, EHPAD, ça c'est parce que j'ai les cheveux blancs, les hospices, et les restaurants d'entreprise, parce qu'au moment du Grenelle de l'environnement, moi, les syndicats me disaient, mais attendez, si le comité d'entreprise peut avoir à la cantine une restauration produit de terroir, bio, de localité, de proximité, sans qu'on ait à débourser plus comme usager, sans qu'on ait à débourser plus comme contribuable, c'est des impôts que nous payons déjà, et que vous nous garantissez, monsieur Dufumier, que l'argent retourne bien aux agriculteurs, et n'aille pas à Sodexo et Avenance, pourquoi pas? Et bien moi, je vous proposerai qu'une part croissante y aille. 2020, tous les repas de la restauration collective, ça nous prend 1,6 milliard d'euros sur les 9 milliards. On pourrait aller progressivement, d'une année à l'autre, un nombre d'agriculteurs se reconvertirait à l'agriculture bio avec l'assurance d'avoir un marché à des prix rémunérateurs, stables et incitatifs à faire du bio, puisque là, il y a le label, je dirais, on va commencer par ça. Remarquez, quand vous faites ça, vous mettez en place des plateformes logistiques, vous commencez à créer non seulement des circuits courts pour ravitailler la restauration collective, mais des circuits courts de taille critique. Parce que dans la promotion des circuits courts, vous savez, quand c'est 20 bourgeois bohèmes qui vont chercher chacun un kilo de fraises dans le champ de l'agriculteur avec leur voiture, je ne vous raconte pas le bilan carbone. Non, la vraie difficulté pour alimenter en bio et de façon pour réduire le coût de la collecte primaire, c'est que le camion qui va aller chercher le lait bio ne soit pas obligé d'aller à l'est du département, au nord, à l'ouest et au sud. Qu'il y ait un nombre suffisant de gens qui se reconvertissent à ce type d'agriculture avec l'assurance d'un marché stable avec la restauration collective. Vous verrez, le jour où il y a des plateformes logistiques, vous verrez les biocoop, les commerces privés qui voudront s'alimenter en produits bio, trouveront sur place une logistique déjà mise en place. Question, qu'est-ce qu'on attend ? Et pourquoi ne pourrait-on pas, dès le mois de juin, obtenir au moins ça, un transfert de 1,6 milliard, progressivement, hein. 1,6 milliard, c'est 2020, quand tous les restaurants, toute la restauration collective, fréquentée par les couches modestes, je suis désolé, dans les cantines, c'est les couches modestes, chez L'Oréal, c'est pas la patronne qui fréquente la cantine, c'est quand même les ouvriers de préférence, je veux dire, voilà. Deuxième chose, alors maintenant j'en conviens, pour ce qui est du grand public et la restauration à domicile, proposer une agriculture artisanale qui a exigé plus de travail et mérite d'être mieux rémunérée, comment faire, sachant qu'il y a une masse de gens absolument considérable en France qui fréquentent les hard discount. Ceci étant, avant de parler de ça, on n'oubliera quand même pas que malgré la stagnation du pouvoir d'achat en France, malgré ça, au cours des 5 dernières années, la consommation bio s'est accrue de 10% chaque année en plus. Et ça se traduit par des importations de produits bio en plus. C'est-à-dire que même sans parler du bien-être des gens, hein, de leur évité, Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, etc., même d'un point de vue monétaire, je dirais à nos économistes, si on ne raisonne que comme ça, on est en train de perdre des parts de marché. On est en train de perdre des parts de marché en France parce que nos politiques publiques n'ont pas été suffisamment clairvoyantes sur le fait que même en période de stagnation d'achat, de pouvoir d'achat, pour des raisons de certification, et puis je peux vous assurer que là, le cheval dans le bœuf nous aide aussi à ce que les gens regardent un peu mieux leur nourriture. Mais donc, allons-y. Même là, je dirais qu'un certain nombre de mes collègues, INRA Économie et ailleurs, ont fauté, n'ont pas su aider les politiques à être clairvoyants et anticiper le fait que désormais, à cause d'une consommation croissante de produits bio, nous importons de plus en plus en Autriche, où déjà, il y a déjà 12% de gens, où il y a des circuits de collecte organisés, et les grandes surfaces, elles préfèrent s'économiser le coût de la collecte primaire là-bas, plutôt que chez nous. On a eu tout faux. Maintenant, pour ce qui est de rendre moins coûteux, à domicile, les produits issus d'une agriculture, issus de l'agriculture agrobiologique, enfin, de l'agriculture de l'agroécologie, nécessairement plus artisanale, nécessairement plus paysanne, nécessairement plus intensive en emploi, comment faire pour qu'ils y aient accès? Je vous proposerai qu'on diminue le coût de production de ce produit en rémunérant les agriculteurs pour leurs services environnementaux. Les agriculteurs nous rendent des services? Ben, on va les rémunérer pour ça. Pourquoi pas? Les agriculteurs seraient doublement rémunérés par la qualité de leurs produits et par les services environnementaux qu'ils rendent à la nation. En remettant des arbres, en remettant des haies, vous remettez des coccinelles, en remettant des coccinelles, il y a moins de pucerons, en mettant moins de pucerons, il y a moins de pesticides et c'est meilleur pour notre santé. On vous rémunère. C'est non seulement la politique nouvelle, ce sera, on ne va pas interdire, on va vous dire que vous n'êtes pas éligible aux subventions de la politique agricole commune, à partir de maintenant, on va rémunérer chaque fois que vous rendez un service utile à la nation. Vous refabriquez de l'humus, on vous rémunère. Vous réassociez agriculture-élevage, parce que l'agroécologie, ça implique et la forêt, et l'agriculture, et l'élevage, c'est l'écosystème, c'est l'ensemble de l'écosystème. Ben, on vous rémunère. Vous nous remettez des abeilles, on vous rémunère. Alors, entre obligation de moyens et résultats, c'est pas simple, parce que l'obligation de résultat, si l'agroforesterie faut attendre 20 ans, je propose qu'on les rémunère dès maintenant. Mais quand même, évidemment, avec des obligations, ce sera un mélange, bien sûr, hein, d'obligations de moyens et de résultats. Et vous voulez que l'agroécologie soit conforme à la diversité de tous les des territoires? Ben écoutez, c'est pas en imposant des éco-conditionnalités depuis Bruxelles, uniformes pour tous les terroirs de 27 pays, qu'on y arrivera. Je suis désolé. Il va bien falloir un jour que les subventions de la politique agricole commune, qui restera une politique agricole commune, avec des objectifs et des cahiers des charges globaux destinés à assurer un bon produit ou assurer des services environnementaux, eh bien, il va falloir effectivement une certaine subsidiarité dans les modalités d'application. Et je n'exclurai pas que les subventions de la politique agricole commune transitent par les régions et que par la voie contractuelle, on parvienne à établir des cahiers des charges de ce qui mériterait d'être rémunéré, évidemment en tenant compte des potentialités productives des différents terroirs dans les différentes régions. Ça, c'est la politique agricole commune telle que je la concevais d'un point de vue strictement idéal. Alors maintenant, la bataille d'amendements, là, dans les mois qui viennent, ben écoutez, ne perdez pas la bataille, hein, 30% de verdissement, c'est quand même mieux que 1%, le fait qu'on ait rétabli 30%, ah oui, on n'a pas tout perdu. Bon. Les surfaces d'intérêt écologique, ben oui, prenez, hein, prenons-en. C'est vrai qu'à partir du moment où c'est uniforme pour tous les terroirs de 27 pays, y compris même en France, hein. J'ai vu des régions où les gens, ils avaient mis effectivement des lotiers, etc. Ils se demandent quand même si les nématodes qui leur arrivent sur la vente, ça ne provient pas de ça, quoi. Comme quoi des mesures dictées de Bruxelles pour tous les terroirs de 27 pays, c'est parfois complètement inapproprié. Mais enfin, globalement, quand même, hein, en remettant des haies, en remettant des surfaces d'intérêt écologique, on remettra quand même peut-être des abeilles, on remettra peut-être des coccinelles, on remettra peut-être des carabes et des cirfes, etc. Les insectes ravageurs de ravageurs et autre chose, hein. Bon, il faut rémunérer les cultures associées. Bon, on va rémunérer les cultures associées. Hein. Il faut rémunérer la transition du maïs en silage au tout à l'herbe en Bretagne. Ben, on va rémunérer ça, quoi. C'est ça qui serait l'intérêt. Mais c'est pas ça, la politique agricole commune. Bon, prenons 30% de verdissement. Dans le verdissement, puisqu'on peut encore se battre sur les amendements. Allez, messieurs les députés européens, s'il vous plaît, s'il y en a dans la salle, l'histoire de mettre 3 cultures en rotation dans une légumineuse, c'est quand même pas si exigeant que ça, quoi. Quand vous avez réussi à transformer ça, non, on mettra que 3 cultures dans l'assolement. Dans l'une des cultures pouvant occuper 80% de l'assolement. Vous aurez encore le droit de pratiquer la monoculture sur 80%. Enfin, je vais vous dire, mais à quoi vous ressemblez, vous les députés européens, quand vous acceptez des choses comme ça? Vous espérez un jour être réélu? Mais attendez, un jour on vous le fera payer. Je veux dire, non, la politique publique, c'est quand même le jour où on arrivera quand même à dire à nos députés, à nos ministres et à la Commission européenne qu'on n'en veut plus de cette agriculture qui nous donne de la dioxine dans le poulet, du cheval dans le bœuf, de la sclérose dans la plaque. Enfin, je veux dire, faut que... Mais c'est quand même ça l'histoire des externalités négatives qu'on nous disait tout à l'heure, quoi. Ok, ben on va se battre là-dessus. Et puis les mesures agro-environnementales, ben écoutez, puisque vous suggérez que ce soit transité par les régions, alors là on prend, hein. Là, la subsidiarité, à savoir que ça va être de contractuel par les régions, on prend. Voilà, moi, ce que j'avais envie de vous livrer. Je crois qu'on a l'obligation d'opérer un virage à 90 degrés. Il faut se donner le temps. Il faut l'adhésion donc du plus grand nombre d'agriculteurs. Oui, derrière l'agroécologie, derrière l'agriculture biologique, il y a des considérations éthiques, puisque c'est pour répondre à une demande sociétale. On s'arrangera quand même que d'un point de vue strictement économique, quand des agriculteurs travaillent pour leur revenu, et travaillant pour optimiser leur revenu, ben, il travaille en conformité d'intérêt général. Pourquoi ne pas utiliser des outils économiques et des politiques agricoles communes et publiques pour y arriver? Et après, je rejoins complètement à l'échelle de la France, on va faire la révolution culturelle dans la nanoscientifique. Juste une petite histoire sur la génétique et le débat de ce matin qui n'a pas eu lieu, hein, sur la biotechnologie. Moi, mon grand reproche que je fais dans cette histoire qui nous a amené aux plantes génétiquement modifiées, elle commence le jour où on a considéré que pour accroître les rendements à l'hectare, c'est-à-dire pour accroître le rendement de la photosynthèse à l'hectare, plutôt que de jouer sur des populations végétales, où pas un rayon du soleil ne tombe à terre, où tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles, et tombent sur des feuilles qui transpirent, ce qui va être ça l'agroécologie, accroître les rendements photosynthétiques à l'unité de surface aujourd'hui, ça va être à l'échelle de l'écosystème. Et bien on a fait ça à l'échelle d'un seul facteur, la génétique. Qu'est-ce qui nous a amené aux plantes génétiquement modifiées? C'est effectivement la vision non écosystémique. Et ça, il faudra que le politique s'en empare. Il faudra que le politique comprenne que l'objet de travail, c'est un écosystème, et que dans la recherche, dans la formation, ça a été dit ce matin, eh bien effectivement, on fait des recherches et on fait de la formation qui aille dans le sens de préparer les agriculteurs à mieux aménager leur agroécosystème en fonction de l'intérêt général. Désormais, c'est multifactoriel. Désormais, c'est pas simpliste, c'est pas unifactoriel, c'est savant, certes, c'est artisanal, ça mérite d'être mieux rémunéré. Ben allons-y.
Bon, alors, avant de prendre les questions à ça, une petite question. Vous êtes optimiste?
Je suis techniquement optimiste sur le fait qu'effectivement, alors dans les pays du Sud, on puisse d'emblée accroître les rendements avec une agriculture inspirée d'agroécologie. Chez nous, effectivement, quand vous êtes seul à vous convertir dans une agriculture biologique et que vous avez les pucerons résistants aux pesticides du voisin et que le pesticide du voisin a aussi détruit les coccinelles, soyons clairs, l'image que l'on a d'une agriculture bio qui, chez nous, se traduit inévitablement par une baisse des rendements à l'hectare, ne la transposez surtout pas à l'échelle du monde entier. Oui, je suis techniquement optimiste, et Marie-Monique Robin, vous avez le droit de ne pas me poser la question, est-ce que je suis politiquement optimiste ?